France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Lauréat du prix Balzan 2025, le physicien Christophe Salomon est reconnu internationalement pour ses travaux sur les atomes refroidis par laser utilisés dans les horloges atomiques. Il est aujourd'hui notre invité. Dans nos sociétés hyper connectées, la seconde rythme nos existences. Cet étalon du temps joue un rôle majeur dans nos communications téléphoniques, Internet ou les GPS. Le battement du pendule a cédé sa place à la vibration des atomes. Et en ce moment même, plus de 400 horloges atomiques synchronisent le monde. En 1991, Christophe Salomon invente la première horloge à fontaine atomique et améliore ainsi la précision de la mesure du temps d'un facteur 100. Il est aussi le premier à imaginer le fonctionnement de ces horloges à atomes ultra-froids dans l'espace, il y a déjà 30 ans. Christophe Salomon, le passage à l'heure d'atome. Christophe Salomon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire Kassler-Brossel de l'ENS, membre de l'Académie des sciences, membre de la Société américaine de physique et de la Société européenne de physique et le lauréat du prix Balzan 2025. Grand merci d'être ici avec nous. Et puis merci également à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur notre compte Blue Sky. Nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires pour enrichir votre écoute. C'est à retrouver à Science CQFD. Alors comment a évolué la précision des horloges au fil de l'histoire ? Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Et quelle est l'importance de vos travaux dans cette quête de la précision ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, avant toute chose, Christophe Salomon, il faut peut-être voir quels sont les principes fondamentaux de la mesure du temps, la différence finalement entre nos bonnes vieilles horloges mécaniques et ces horloges atomiques.
Oui, alors, les horloges mécaniques, je crois qu'on peut dire que c'est Galilée et Huygens qui ont découvert ce qu'on appelle les premières horloges faites par l'homme. Parce qu'auparavant, on regardait des phénomènes réguliers, comme la rotation de la Terre sur elle-même, et on disait le jour et la nuit, voilà, c'est régulier, à peu près régulier. On va voir que c'est pas du tout suffisamment régulier pour beaucoup d'applications. Et puis, c'est justement Galilée et Huygens qui ont observé que les petites oscillations d'un pendule était très régulière, dépendait pas de la masse qu'on faisait osciller, dépendait juste de la longueur du pendule et de l'accélération de la gravité. Et ils se sont dit, ça va pouvoir faire de bonnes horloges. Alors, ça fait de bonnes horloges, et un chercheur anglais génial, Harrison, a développé des horloges pour la navigation, parce que la navigation avait besoin d'horloges, il y avait énormément de naufrages, parce que les gens ne savaient pas se positionner suffisamment bien à la surface du globe. Il a développé des horloges déjà donc au XVIIIe siècle avec une erreur de seulement 5 secondes tous les 3 mois. C'est remarquable. Les pendules de nos grands-mères qui font tic-tac à un coup par seconde ont des erreurs, elles, de l'ordre de quelques secondes par jour. C'est déjà pas mal du tout, hein.
Alors, on voit au cours de l'histoire, même avant d'arriver à l'avènement de l'horloge atomique, que les horloges ont gagné en précision au fil des siècles, comme vous le dites.
Voilà, c'est ça. Et donc, elles ont gagné un facteur considérable. Même les horloges atomiques, elles ont gagné 9 ordres de grandeur, hein, donc 10 puissance 9, c'est-à-dire 1000 millions en précision sur les dernières 70 années. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Je suis très heureux d'avoir participé à cette aventure, modestement, avec beaucoup de collègues français, comme André Cléron et l'équipe de l'Observatoire, et des collègues étrangers qui font partie de cette démarche collective de mesure du temps au niveau mondial.
Et on verra en effet dans quelques instants dans le détail l'importance de vos travaux, de comment vous vous êtes penché sur ces technologies de refroidissement d'atomes par laser. Mais d'abord quand même, pour bien comprendre le concept de l'horloge atomique, là on vient de voir les premiers instruments qui mesurent le temps, plus exactement des intervalles de temps, puisqu'il n'y a pas de temps absolu. Ces horloges atomiques, en fait, pourquoi les atomes, enfin qu'est-ce qui fait que la structure même des atomes peut servir de mesure de temps ?
Voilà, alors je reviens au pendule, et puis pour introduire l'atome justement. Le pendule, c'est une oscillation mécanique. Et depuis maintenant plusieurs centaines d'années, on sait que la lumière a aussi une oscillation. Hein, les ondes radio que vous émettez ici à France Culture, ce sont rien d'autre que des oscillations d'un champ électrique et magnétique qui sont propagées par des antennes sur la France entière ou même dans le monde entier. Et donc, le passage d'une horloge mécanique à un champ électrique a été une démarche conceptuelle très importante. Et les premières horloges de ce type étaient des oscillateurs à quartz, inventés à peu près au niveau de la Première Guerre mondiale.
Comme dans nos montres.
Avec les ondes radio, voilà. Et alors là, l'oscillateur à quartz, il a déjà un premier avantage considérable, c'est qu'il oscille 10 millions de fois par seconde, alors que la pendule mécanique, elle fait tic-tac à un coup par seconde. Et alors là, on comprend bien qu'avec 10 millions d'oscillations par seconde, on va pouvoir être beaucoup plus précis, parce qu'on va compter un nombre d'oscillations. Tout comme on comptait le nombre de rotations de la Terre sur elle-même, pour faire les jours, on va compter 10 millions d'oscillations par seconde. C'est là qu'interviennent les atomes, parce que les quartz, ils dépendent de la température, de l'humidité, ils se dilatent en fonction du temps. Et les atomes, eux, ils ont un avantage majeur, c'est qu'ils sont tous les mêmes. Une espèce atomique, comme l'atome de césium qu'on utilise dans les horloges, un atome de césium à Paris, New York ou Tokyo, c'est le même, rigoureusement le même. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième, c'est que la mécanique quantique, dont on fête le 100e anniversaire cette année de l'invention de la mécanique quantique, permet de calculer très précisément les écarts d'énergie dans un atome. Alors là, il faut faire un tout petit peu de mécanique quantique, mais vous pouvez me croire. C'est-à-dire que les atomes ont des niveaux d'énergie discrets. Et en envoyant une onde radio, par exemple, très précise, sur un atome, on peut exciter cet atome, c'est-à-dire le faire passer d'un niveau fondamental, son niveau au repos, entre guillemets, vers un niveau excité. Et pour ça, il faut une onde radio très précise, en accord avec la résonance de l'atome. Alors l'idée géniale pour faire une horloge atomique, c'est de se dire, je vais interroger un atome, une collection d'atomes en pratique, et je vais créer un asservissement pour forcer la radiation qui va illuminer l'atome, à rester asservi sur la transition dans l'atome. Voilà. Cette transition, elle est stable. On peut calculer toutes ces perturbations, etc., avec une très très bonne précision, décrite par la mécanique quantique. Et on va, l'oscillateur, le champ électrique en question, ou le champ magnétique, on va le forcer à rester tuné, comme quand vous réglez votre radio dans l'ancien temps, en bougeant un petit peu la rondelle. Et voilà. Et donc là, on a fait finalement une horloge, parce qu'on recopie la stabilité intrinsèque des niveaux d'énergie de l'atome, de l'écart entre deux niveaux d'énergie de l'atome, sur un oscillateur.
Eh bien voilà, en 1955 naissent les premières horloges atomiques. En Angleterre, 1965, deux horloges atomiques arrivent à Paris. C'est notre première archive du jour.
Paris vient d'accueillir deux visiteuses insolites, dont voici la carte d'identité. Longueur 67 cm, largeur 57, hauteur 50, poids 105 kg. Ces deux visiteuses, qui sont américaines, ont un signe particulier, elles sont horloges et atomiques. Et leur seule faiblesse est de commettre une erreur d'une seconde tous les 3000 ans. Ces horloges américaines font actuellement le tour du monde afin de se mesurer à leurs consoeurs européennes. Monsieur Denis, directeur de l'Observatoire de Paris, a donné quelques précisions à Fernand Lott.
La seule façon de les comparer, c'est de les apporter à côté d'une autre horloge qui sert, en somme, si vous voulez, de témoin. Et c'est pour cela que les Américains transportent leur horloge en Europe, et Paris, qui est le siège du Bureau international de l'heure, sous la responsabilité maintenant de M. Guinaud, sert en somme de centre pour cette comparaison, c'est-à-dire que ces horloges vont passer à Paris, partir en Angleterre, être comparées à l'étalon anglais, revenir à Paris, repartir en Suisse, comparer à l'étalon suisse, revenir à Paris, etc., avant de repartir dans son pays natal, en Amérique.
Elles vont donc d'observatoire en observatoire. Et quel est leur degré de précision ?
C'est des précisions de l'ordre de 10 puissance moins 11, c'est-à-dire ça représente la 100 milliardième de seconde, si vous voulez. C'est une précision extrêmement, extrêmement grande, voyez-vous. Et par conséquent, ces précisions-là ne peuvent absolument pas être transportées par signaux horaires.
Voilà le journal de 13h de France Inter en 1965. Christophe Salomon, comment écoutez-vous cette archive sur ces premières horloges atomiques ?
Avec beaucoup d'émotion, parce que les chiffres viennent d'être rappelés, et sachez que maintenant que les horloges à atomes froids à césium sont à 10-16, donc ont gagné 5 ordres de grandeur par rapport à ce que M. Denis, que j'avais rencontré, que j'avais connu, a commenté auparavant. Et donc ça a été le résultat de travail acharné, mais aussi d'avancées majeures en physique quantique. C'est-à-dire que l'invention du laser a permis justement de manipuler les atomes, de refroidir les atomes. Or, dans les horloges qui sont venues à Paris à l'époque, on avait des atomes chauds. Pas très chauds, ils étaient chauffés une centaine de degrés, mais du coup, leur vitesse de propagation dans l'instrument était de quelques centaines de mètres par seconde, alors qu'avec des atomes froids, on peut les amener à quelques millimètres par seconde. Et alors là, on tombe sur un problème. Si ces atomes sont si froids, lorsqu'on coupe les faisceaux laser qui les refroidissent, eh bien ils tombent. D'où l'idée de faire une fontaine atomique. Et c'est ce que nous avons fait avec mon collègue André Clairon en 1990 à l'ENS.
On va parler évidemment de comment vous avez posé les briques de cette première fontaine atomique, mais peut-être qu'on peut aussi rappeler l'importance d'abord de l'application de ces outils de mesure extrêmement précis pour nos sociétés contemporaines. Je pense au GPS par exemple.
Mais évidemment, donc... Pour venir ici, alors je vous dis pas que j'utilisais le GPS parce que je connaissais par cœur la maison de la radio, mais tout le monde a un téléphone portable. Mais pas tout le monde, beaucoup de gens ne savent pas que ce téléphone portable reçoit des signaux émis par des satellites à 20 000 km en orbite autour de la Terre qui envoient des signaux très précis. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'à bord de ces satellites GPS ou Galileo, l'équivalent européen, il y a des horloges atomiques très précises. Qui ne sont pas encore des horloges à atomes froids, mais qui sont des horloges atomiques du modèle qu'on vient de décrire auparavant. Et pourquoi ? Parce que pour vous donner votre position, on utilise simplement la propagation de la lumière. La lumière se propage à 300 000 km par seconde. Donc en une nanoseconde, elle fait 30 cm. Et donc, voyez bien que si vous voulez vous positionner au mètre près, il ne faut pas plus que quelques nanosecondes d'erreur. Ben, quelques nanosecondes, c'est pas facile à réaliser, d'où l'utilisation d'horloges atomiques.
Parce qu'une microseconde d'erreur, ça représente combien de mètres d'erreur, finalement?
Donc 0,3 mètres pour une nanoseconde, 0,3 kilomètres pour une microseconde. Hein, donc on ferait déjà une erreur de 300 mètres en une microseconde d'erreur.
Oui, donc on comprend bien toute l'importance d'avoir des horloges extrêmement précises à la nanoseconde au moins. Alors maintenant, aujourd'hui, on voit bien qu'on est capable de contrôler le mouvement des atomes, de faire des mesures extrêmement précises, mais comment les ralentir pour avoir le temps d'interroger leur état ? Restez avec nous, on y arrive.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons l'honneur de nous entretenir une heure avec le physicien Christophe Salomon. On vient de voir que les premières horloges étaient obtenues en faisant osciller un balancier de pendule. Et c'est cette période de ce balancier qui fixait la seconde, cet étalon de temps. Le balancier n'étant pas assez précis, on a fait des horloges à quarks et on a découvert encore plus précis la vibration d'un atome lui-même. Venons-en à vos travaux, Christophe Salomon. Parlons un peu de votre parcours. Vous avez une formation d'ingénieur de base, vous avez soutenu une thèse en spectroscopie en 1984, et puis vous êtes parti en post-doctorat aux États-Unis, et c'est là que vous découvrez les techniques de refroidissement de lasers d'atomes.
Absolument, dans le laboratoire de John Hall, Colorado, un Boulder, Colorado, un endroit magnifique, et cette équipe était une des toutes premières à avoir réussi avec ce qu'on appelle la pression en radiation, j'en dirai un petit mot, à ralentir un jet atomique. Et pour moi, c'était fascinant, ça. C'est-à-dire que tous les jets qui sont dans les horloges à césium sont des jets effusifs, hein, où la vitesse dépend de la température. Et avec la pression de radiation, alors là, il faut faire un tout petit peu de physique. La lumière est constituée de petits grains, si vous voulez, qu'on appelle les photons. Et un atome peut absorber un photon. Et notre œil absorbe des photons aussi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre œil recule un petit peu quand il absorbe un photon ou plusieurs photons. Et l'atome étant beaucoup plus léger, il va reculer à l'absorption d'un photon de 3 cm par seconde ou 1 cm par seconde, suivant la masse de l'atome. Donc vous me direz, c'est tout petit parce que ces atomes se déplacent à plusieurs centaines de mètres par seconde. Mais le point clé qui est à l'origine de la pression de radiation, c'est-à-dire que la radiation exerce une pression sur des objets, des miroirs ou des atomes, c'est que l'atome peut être excité un grand nombre de fois par seconde. Un million de fois par seconde, même 100 millions de fois par seconde. Du coup, cette pression en radiation peut atteindre 100 000 fois l'accélération de la pesanteur. Donc là, on comprend que c'est une force importante.
Mais alors, cette force-là et ces techniques, ces expériences-là, quand vous revenez en 1985, je raccroche les wagons avec votre parcours, vous rejoignez donc le laboratoire Kessler-Brossel, vous êtes chercheur CNRS, c'est là que vous commencez donc vraiment votre recherche sur les atomes froids. Et quand on parle d'atomes froids, on peut se demander à quel point sont-ils froids, ces atomes?
Voilà, alors d'abord, c'était une opportunité incroyable pour moi d'être invité à rejoindre l'équipe de Claude Quintanucci, prix Nobel Alain Aspect, prix Nobel Jean Dalibard, médaille d'or du CNRS. C'était une équipe merveilleuse de travailler avec ses maîtres et d'apprendre énormément à leur contact. Et donc, on a choisi l'atome de césium justement de travailler, quand on a créé ce groupe expérimental, de travailler avec l'atome de césium, en ayant en tête que c'était justement l'atome de césium qui était utilisé pour la définition de la seconde. Et c'était aussi l'époque où les progrès des technologies laser étaient importantes. Il existait des diodes laser, vous savez, ces tout petits lasers qui sont dans les imprimantes laser ou dans les compacts disques. Et donc, ça transformait un peu la taille des expériences qui était gigantesque. Hein, dans mon postdoc aux États-Unis, on avait une pièce de 30 mètres carrés avec trois lasers qu'il fallait régler tout le temps. C'était pas un cauchemar parce que ça faisait plaisir de faire cette recherche, mais c'était vraiment un exploit technique de faire marcher tout ça en même temps. Et du coup, ça a été un virage très important de pouvoir profiter des avancées de la technologie. Alors, ces diodes laser initialement étaient difficiles à régler, étaient pas stables et tout. Il a fallu faire pas mal de technologies pour les maîtriser. Néanmoins, ça a ouvert beaucoup de possibilités vers la miniaturisation. Et c'est ce qu'on a fait dans les années et décennies qui ont suivi.
Alors, finalement, d'un point de vue expérimental, quand vous refroidissez ces atomes, vous les refroidissez à des températures extrêmement basses. On est donc proche du zéro absolu. Et ça permet du coup de ralentir les atomes, et c'est là où c'est intéressant de les imaginer pour des horloges atomiques.
Oui, c'est ça, parce que alors le concept de base est très simple. Hein. Une fois qu'on a ralenti ces atomes, on peut les observer longtemps. Ça, il y a une limite fondamentale, c'est-à-dire que quand on fait une mesure sur un système, le temps d'observation joue directement dans la qualité de l'interrogation des atomes. Et donc, avec des atomes froids, dans une fontaine, par exemple, eh bien, si on lance les atomes à 50 cm en l'air, on va pouvoir faire un temps effectif de mesure de l'ordre d'une seconde. Et ça, c'est 100 à 500 fois mieux ou plus long, ce temps-là, plus long que dans les horloges à césium dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est de là que vient une partie de la révolution.
Alors cette horloge à fontaine atomique, ça vous inventez, vous êtes le premier à concevoir cet outil-là en 1991. Comment peut-on se la représenter? Est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes étapes?
Oui, alors d'abord l'idée remonte, c'est pas notre idée, c'est une idée qui avait été proposée à MIT par un dénommé Zacharias, un Américain. À la suite, il y a toute une histoire, hein, mais d'une méthode très élégante inventée par Norman Ramsey, prix Nobel de physique 1989, où il a eu l'idée d'exciter les atomes, non pas avec un champ, mais deux champs séparés dans l'espace. Et ça fait une très jolie figure d'interférence qui permet de faire des résonances très fines. Et donc Zacharias avait fait des calculs, s'était dit, si je mets ma machine verticale dans mon jet atomique, j'aurai des atomes lents. Et ces atomes lents, ils vont passer dans le champ micro-ondes à la montée et à la descente. Il avait déjà introduit la notion de fontaine. Alors ce que nous avons fait, c'est justement de la réaliser et de faire en sorte qu'elle marche.
Et alors, faire en sorte qu'elle marche, comment ça marche finalement le refroidissement des atomes? Je sais qu'il est question d'une mélasse optique une fois que les atomes sont cernés de plusieurs faisceaux de laser.
Oui, alors, on a parlé de la pression de radiation, il faut une notion de plus encore, c'est refroidir. Hein, la pression, ça pousse, ça refroidit pas. Hein, pour refroidir, il faut diminuer la vitesse. Et donc, c'est une très belle idée de Hensch et Chalot qui est de choisir la couleur du laser un tout petit peu en dessous de la fréquence de résonance de l'atome. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être exactement à résonance pour exciter les atomes. Eh bien, Hensch et Chalot ont proposé de se mettre un petit peu en dessous de la résonance, c'est-à-dire que les photons n'ont pas tout à fait suffisamment d'énergie. Et ça, on peut montrer qu'à cause de l'effet Doppler, ça c'est la voiture de pompier qui vient vers vous, la fréquence augmente, et si le faisceau laser est un tout petit peu en dessous de résonance, quand sa fréquence augmente, il va s'approcher de résonance. S'il est proche de résonance, la pression de radiation sera grande. Et pour ce qui est de l'onde qui va pousser l'atome dans le mauvais sens, hein, si l'atome bouge vers vous, par exemple, eh bien celle-là, elle était déjà hors résonance, elle sera encore un petit peu plus hors résonance. C'est un petit peu technique, mais avec ça, on fait une force visqueuse très importante, d'où le nom de mélasse optique. Les atomes sont englués dans un bain de photons, et ils y restent plusieurs secondes. On était fascinés de les regarder avec un viseur infrarouge, hein, dans cette intersection de trois faisceaux laser, un suivant la direction X, un autre suivant la direction orthogonale Y, et le troisième suivant la direction. Et là, les atomes sont englués, et on voit leur fluorescence d'atomes à quelques microkelvins. Je trouve ça toujours fascinant, même aujourd'hui.
Vous savez comment ça vous est venu, cette idée justement d'appliquer, de refroidir des atomes pour les appliquer à des horloges atomiques ? C'était une évidence ?
Ah oui, parce qu'il y avait des papiers qui le proposaient, qui disaient on pourrait gagner pas mal comme ça. Et alors là, on a eu aussi une très belle surprise, c'est-à-dire que les atomes se sont avérés bien plus froids que prévu. Ça, c'était un don de la nature, hein. Et ça a été interprété par Claude Quintanugi et Jean Dalibard, hein. Ils ont montré que le mécanisme de refroidissement classique, dont j'ai parlé très brièvement là, en fait, il ne s'applique pas. Il y a un refroidissement beaucoup plus efficace qui permet d'aller beaucoup plus froid. 100 fois plus froid que ce que la théorie prédisait à l'époque. D'où le micro-Kelvin dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est une vraie définition de la température, hein. C'est un micro-degré au-dessus du zéro absolu, hein. Un millionième de degré au-dessus du zéro absolu. C'est que les atomes forment une petite boule gazeuse. Et la vitesse d'agitation dans cette petite boule de gaz n'est que de 8 mm par seconde dans n'importe quelle direction.
Il y a d'autres applications à ces atomes froids ?
Oui, alors il y en a plein. Alors il y a des applications, des mesures de précision, ce qu'on appelle l'interférométrie atomique, hein, où on va utiliser des géométries assez proches de celles dans les horloges, mais pour faire ce qu'on appelle interférer ces ondes de matière. Et plus les atomes sont froids, plus les franges d'interférence peuvent être plus faciles à réaliser. Et avec ça, on fait des gravimètres, on fait des accéléromètres, on peut mesurer des rotations très précisément. Il y a même une société commerciale française, Exel, qui vend ces gravimètres pour la géologie, la détection, enfin la mesure auprès des volcans, s'il y a d'éventuelles éruptions, des choses comme ça. Donc ça, c'est une des applications importantes. L'autre application, c'est que on peut dire qu'un micro-Kelvin, c'est très froid, mais en fait, on peut faire encore plus froid, bien plus froid, avec la méthode de refroidissement évaporatif qui conduit à la condensation de Bose-Einstein. Donc là, c'est encore un domaine de physique qui s'est développé énormément au cours des deux dernières décennies. On peut faire des gaz d'atomes maintenant au picodegré Kelvin, quelques picodegrés Kelvin, submicron, enfin quelques microns par seconde.
En tout cas, aujourd'hui, ces atomes ultra-froids, ce schéma de la fontaine atomique, ils sont essentiellement utilisés universellement, d'ailleurs, dans les instituts de métrologie du monde entier, pour justement définir le temps atomique international. Et sur cette question de la mesure fine du temps, voici une question de l'un de nos invités mystères. Vous évoquiez à l'instant vos maîtres. Écoutez.
Bonjour Christophe. Le temps occupe une place très particulière en philosophie comme en science. Saint-Augustin écrivait « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. » En physique, on traite souvent le temps comme un paramètre extérieur. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait émerger naturellement quand un système devient assez complexe, mais aucune théorie complètement convaincante n'a encore été proposée. Et pourtant, le temps est aussi la grandeur que nous savons mesurer avec la plus grande précision, notamment grâce aux appareils que tu as construits. Ma question est donc la suivante. Comment comprendre ce paradoxe d'une notion si difficile à saisir et que l'on peut mesurer avec une exactitude extraordinaire ?
Voilà la voix de Jean Dalibard, physicien avec qui vous avez donc travaillé. Vous savez répondre justement comment à cette question-là, comment vous regardez ce paradoxe ?
Ah, merci Jean, c'est une question piège. Je suis comme saint Thomas aussi, mais ma réponse, elle est fondée sur l'analyse d'Einstein, tout simplement. Le temps, c'est ce que mesure une horloge qui est à côté de moi. Donc, dans mon référentiel local, en relativité générale, j'ai le droit de transporter un instrument qui va délivrer le temps propre. Et Einstein nous a appris comment synchroniser ces horloges dans des champs de potentiel différents. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le temps est une notion bien définie, hein, dans le sens d'Einstein. Bien sûr, ça n'est pas la réponse totale à ta question, parce que il y a l'évolution cosmologique du temps, par exemple. Il y a la compatibilité entre la mécanique quantique et la relativité générale. La relativité générale, c'est une théorie classique. La mécanique quantique, une théorie quantique par définition. Et donc là, c'est une interface, en fait, qu'il est très intéressant d'explorer avec ces dispositifs. Mais donc la question... Je penche plutôt de mon côté, un peu comme saint Thomas, cette phrase est magnifique.
Vous évoquez la synchronisation des horloges. Concrètement, pour déterminer la stabilité d'une horloge atomique, que faut-il faire ? Faut une deuxième du même type, c'est ça ? Mais que faire plus précisément pour justement déterminer la stabilité entre ces deux outils ?
Oui, mais il en faut deux. Et en pratique, il en faut même trois. Parce que si vous en avez deux, alors vous pouvez dire qu'elles sont identiques. Et puis vous mesurez le bruit relatif entre ces deux horloges, mais vous ne savez pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Alors que quand il y en a trois, c'est facile. On fait l'horloge A moins l'horloge B, l'horloge B moins l'horloge C, l'horloge C moins l'horloge A, et on peut détecter si l'une des trois possède un petit défaut. Et puis, au niveau international, on a des méthodes de comparaison maintenant, et ça c'est très important. C'est-à-dire que tous les laboratoires de métrologie du monde entier ont des horloges en fontaine, qui sont comparés en permanence par des signaux GPS. Et le Bureau international des poids et mesures, qui est à Sèvres, hein, en région parisienne, calcule le temps universel coordonné. Hein, et tous les mois, il délivre ce qu'on appelle la circulaire temps. Hein, et il donne les écarts en temps de toutes ces horloges entre elles. Donc on a un réseau international d'horloges qui définissent le meilleur temps possible réalisé par ces fontaines à césium et d'autres atomes également.
Alors, ce sont des objets déjà très sensibles, mais la communauté scientifique travaille à la mise au point d'horloges atomiques toujours plus précises. Alors pourquoi une telle quête de précision ? Restez à l'écoute, on y arrive.
Les doigts de pied du temps qui passe au loin. Je compte sur ma ronde pour écarter de mon chemin les mauvaises sondes. Je continue jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde, je compte les secondes sur les doigts de pied du temps qui passe au loin. Je compte sur ma ronde.
Arne Vinzon, les secondes en direct sur France Culture, puisque on les compte à la picoseconde près avec notre invité du jour, Christophe Salomon, physicien, directeur de recherche émérite CNRS au LKB de l'ENS, membre de l'Académie des sciences, membre de la Société américaine de physique et de la Société européenne de physique et lauréat du prix Balzan 2025. On vient de parler de vos travaux pionniers sur l'utilisation d'atomes ultrafroids pour la fabrication d'horloges atomiques qui ont révolutionné la mesure du temps, révolutionné, mais jusqu'à quel point? C'est notre seconde archive.
Il n'y a pas, dites-vous, d'aiguille. Eh bien, non. L'aiguille, qui est la concrétisation de l'heure à nos sens, à nous, ne représente qu'un organe annexe sans grand intérêt par rapport à la question proprement dite de la définition du temps. Le temps que nous définissons, c'est une fréquence. Une fréquence électrique, au même titre qu'une note est une fréquence acoustique. Or, l'horloge atomique définit une fréquence avec une précision encore jamais atteinte jusque-là. Il est facile, par des procédés classiques, de partir de cette fréquence pour faire mouvoir des aiguilles ou d'autres engins beaucoup plus subtils qui définiront le temps avec une grande précision.
Quel est le principe de cette horloge ?
Eh bien, le principe, c'est l'observation d'une vibration atomique. Pourquoi atomique ? Parce que les atomes, qui sont les constituants les plus simples de la matière, sont les mêmes en tous les points du globe, et par conséquent, les fréquences que l'on pourra observer, qu'on pourra déduire en les observant, sera la même, quels que soient les atomes et quel que soit le lieu.
Et quelles sont les performances des présentes horloges ?
Eh bien, notre horloge est chiffrée par les spécialistes en stabilité relative, c'est-à-dire, quand nous disons qu'elle a une stabilité de 10-11, cela veut dire qu'elle ne dérivera pas de plus d'une seconde en 10 puissance 11 secondes, c'est-à-dire d'une seconde en 1000 ans.
Voilà, le trésor de France Inter en 1966, et Georges Brousseau, directeur adjoint du Centre de physique avancée de la CSF. Christophe Salomon, nos outils à nous aujourd'hui, quelles sont justement leurs incertitudes et leurs marges d'erreur ?
Alors, les fontaines ont une incertitude maintenant d'une seconde d'erreur tous les 300 millions d'années. Donc, si on avait deux fontaines qu'on avait démarrées il y a 300 millions d'années, elles ne différeraient pas de plus de quelque chose comme une seconde. Mais les horloges optiques, aujourd'hui, font encore 100 fois mieux. C'est-à-dire, c'est une seconde sur l'âge de l'univers, maintenant, dont il faut parler. Même un peu mieux qu'une seconde sur l'âge de l'univers. Alors ça résulte d'avancées qu'on peut comprendre très simplement. À nouveau, je reviens au pendule de Galilée. On a dit que entre le pendule et le quartz, on passait d'un tic-tac par seconde à 10 millions de tic-tac par seconde. Avec le césium, on est passé à 9 milliards de tics par seconde. Et avec une horloge optique, on gagne encore un facteur 100 000. C'est-à-dire que le pendule bat maintenant 100 000 fois plus vite. Le champ électromagnétique n'est plus un champ radio pour exciter les atomes, mais c'est un champ optique. C'est la couleur rouge ou une couleur bleue, vous voyez, dans le spectre visible, ou même le proche infrarouge. Donc là, il y a un facteur considérable à gagner. Alors bien sûr, il faut trouver des atomes particuliers. En plus, une idée magnifique de Katori au Japon permet de les piéger. C'est-à-dire non seulement, je vous ai dit, dans les fontaines, les atomes sont en vol libre, ça c'est parfait, ils subissent le mouvement uniformément accéléré dans le champ de la Terre, mais si on piège les atomes, on peut les garder dans la zone d'observation encore plus longtemps. Et donc là, on peut les observer pendant des dizaines de secondes, et donc pousser encore la résonance, la largeur de la résonance, vers des niveaux encore plus fins. Et donc c'est grâce à ce gain-là que les horloges optiques font 100 fois mieux maintenant que... Mais là, il faut faire attention, parce que 10-18, je prends deux horloges. À 10-18, j'en mets une 1 cm au-dessus de l'autre. Eh bien, elles vont différer de 1-10-18, ou deux horloges à 1 mètre de distance verticale au niveau de la Terre, à cause de l'effet Einstein, vont différer de 1-10-16. Et donc... Là, on se heurte, entre guillemets, à la relativité, à nouveau. Tout comme dans le GPS, il fallait tenir compte des effets relativistes. Et bien là, quand on va comparer des horloges, soit elles sont juste à côté l'une de l'autre et on peut les mesurer très bien et faire en sorte que le déplacement gravitationnel des horloges d'Einstein soit négligeable, soit il faut connaître leur précision de très bonne façon. Et ce n'est pas du tout trivial de comparer une horloge aux États-Unis, au Japon et en France au niveau du centimètre. Il y a des méthodes géodésiques par satellite, donc il y a une communauté de géodésie terrestre très active là-dessus, qui mesure le champ de potentiel terrestre, et on est obligé de mettre tout ça dans les comparaisons d'horloges à distance.
Ces horloges qui fonctionnent à des fréquences optiques, ça, on parle quand même de quelque chose qui n'est pas encore très mature.
Mais elles font des progrès tous les jours. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a des horloges optiques qui sont capables de fonctionner pendant deux semaines, trois semaines, sans coupure majeure. La question, c'est que quand on fait une coupure, comme on dit en termes techniques, on peut perdre la phase, on peut perdre le fil du temps, on dirait un petit peu. Et donc, soit on a un autre oscillateur à côté pour nous dire « Ah là là, attention, vous avez perdu un cycle hein, », puisqu'il y en a beaucoup dans une seule seconde. À ce moment-là, on peut le corriger. Si on en a perdu trop, c'est foutu. Et donc, c'est une des difficultés hein, de...
On peut se demander à ce moment-là de l'émission, puisque là on parle voilà de ces lasers, des horloges optiques qui oscillent 100 000 fois plus vite que les horloges atomiques. Jusqu'à où peut-on aller en termes de progrès? Comme vous avez dit, en plus que c'est une histoire avec des progrès exponentiels, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser?
Ah, ça c'est une bonne question aussi. Il y a sûrement des limites imposées par la relativité générale et la taille du nuage. Une expérience de Juni aux États-Unis est fascinante parce qu'il a montré que sur un petit nuage de 1 mm de haut, seulement 1 mm de haut, quand il prenait la partie du nuage supérieur, les 500 microns supérieurs, il mesurait le signal d'horloge en haut et il le comparait au signal d'horloge avec les 500 microns du nuage du bas. Hein, et bien là, il trouvait justement un écart hein, de 10.19, voilà. Et donc ça montre l'extrême sensibilité de ces instruments qui pourraient être utilisés, par exemple, pour détecter les ondes gravitationnelles. Enfin, il y a pas mal d'applications possibles de ce type d'instrument. C'est à mettre au point. Et puis, une autre application qu'on peut mentionner qui est très intéressante, c'est que, je reviens sur l'effet Einstein, si on croit à la relativité générale, ben, en mettant des horloges dans des lieux différents, on va pouvoir mesurer ces différences de potentiel point à point, hein, alors que les mesures satellites sont plus globales. Hein, et donc faire une sorte de réseau géodésique avec une très bonne précision.
Et on verra dans quelques instants comment une de vos expériences teste en ce moment même l'effet Einstein. Mais d'abord, toujours par rapport à cet avenir des horloges atomiques, ou plutôt même optiques, devrions-nous dire. En ce moment, donc le BIPM, le Bureau International des Poids et Mesures que vous évoquez, réfléchit à redéfinir la seconde. Alors, vers quoi allons-nous tendre? Par quoi allons-nous remplacer le césium? Quel atome pour mesurer le temps? Ou un cocktail d'atomes? Enfin, comment vous observez ces progrès à venir?
Alors là, oui, il y a un groupe de travail au BIPM qui se focalise là-dessus. Je suis ces travaux avec de près. Alors, on a un petit problème, c'est-à-dire qu'on a presque trop d'atomes qui sont candidats en même temps. Hein, donc il y a le strontium, l'ytterbium par exemple, des atomes neutres. Et puis il y a même une catégorie d'horloge optique qui marche bien également, qui sont les ions. C'est des ions où on arrache un électron à l'atome et la particule est chargée à ce moment-là et on peut la confiner dans un piège électromagnétique très bien. Et quand on met cet ion dans ce piège, dans une zone où il n'est pas perturbé du tout, on peut faire aussi des horloges de très bonne qualité. Et donc on a un peu l'embarras du choix aujourd'hui. Jérôme Ledevic, à l'Observatoire de Paris, a lui proposé une idée que j'aime bien, hein, il faut voir si elle peut être réaliste et mise en place de façon raisonnable, qui serait de prendre le meilleur de toutes ces horloges, de faire une moyenne, on dit une moyenne pondérée, en prenant les meilleures horloges, un petit peu comme en cuisine, vous prenez un petit peu les meilleurs ingrédients, vous en faites un petit mélange et vous définissez la seconde à partir d'un cocktail des meilleures horloges. Ce serait l'avantage que le progrès dans la mesure du temps sur toutes ces horloges pourrait continuer en parallèle. Si une horloge se dessine comme étant meilleure que les autres, eh bien, on peut lui donner un plus grand poids dans la définition de la seconde. Inversement, remplacer le césium par le strontium ou l'ytterbium, c'est une définition très simple, il suffit de changer un nombre et puis tout va bien. Mais voilà le débat, hein, le débat en cours. Et on parle d'une redéfinition en 2030 ou 2034 par la Conférence Générale des Poids et Mesures qui se tient tous les 4 ans.
Et on verra si cette seconde est redéfinie. On peut aussi se poser la question, pourquoi ces meilleures horloges, toujours plus fortes, toujours plus précises, pourquoi faire?
Quand on a un instrument plus précis, on peut faire des tests plus précis des lois physiques fondamentales. Et donc, Au cours des années, on a développé des tests. On peut répondre à des questions un peu exotiques. C'est le grand physicien Dirac, hein, en 1937, qui avait dit « Mais est-on bien sûr qu'à l'échelle de l'évolution de l'univers, du cosmos, les constantes fondamentales de la physique étaient les mêmes il y a 1 milliard d'années ou 10 milliards d'années que maintenant ?» C'est une question totalement valide, et les astrophysiciens se sont penchés là-dessus également. Donc nous, ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, et on a fait des expériences avec les fontaines à rubidium, à césium, et aussi avec des horloges optiques, eh bien on peut regarder si les constantes fondamentales de la physique sont bien constantes, bien stables aujourd'hui. La réponse est oui, et on le fait au niveau de 10-19 par année de mesure. Donc on fait des mesures en janvier, l'été, janvier, etc. On répète sur une année ou deux, et on regarde, indépendamment de toute théorie, si ce rapport entre la fréquence du rubidium et du césium, par exemple, est la même. Et pour l'instant, on ne trouve rien. Si on trouvait quelque chose, ça serait encore plus excitant.
Ben, ça voudrait dire qu'on aurait mis le doigt sur l'existence d'une nouvelle physique. Alors, grâce à ces horloges atomiques de plus en plus précises, on peut donc vérifier s'il n'existerait pas de tout petits défauts dans la physique actuelle. L'une de ces expériences se déroule actuellement dans l'espace, grâce à l'horloge atomique française Pharao. C'est votre projet, Christophe Salomon. Restez avec nous, on y arrive.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec Christophe Salomon, spécialiste reconnu internationalement des atomes refroidis par laser, des gaz quantiques, qui s'intéresse à leur application pour la mesure du temps avec des horloges atomiques et des tests en physique fondamentale. Ces tests en physique fondamentale, il y en a un en ce moment. Vous avez été le premier, Christophe Salomon, à imaginer le fonctionnement de ces horloges à atomes ultra-froids dans l'espace il y a 30 ans. Alors pourquoi imaginer des horloges là-haut? Pourquoi l'espace? Pourquoi cet environnement là est-il intéressant?
Eh bien, je reviens au nuage d'atomes dont j'ai parlé tout à l'heure, si froid que quand on coupe les faisceaux laser, il tombe. Et donc, je me souviens d'une visite de représentants du CNES, l'Agence spatiale française, en leur disant, bah, écoutez, au lieu de faire une fontaine, on pourrait très bien faire une horloge avec des atomes ultra lents. Et c'est ce que nous avons développé sur ces 25 dernières années, avec l'aide du CNES en France et l'Agence spatiale européenne. Il a fallu, pour passer d'expériences de laboratoire un peu complexes, etc., il a fallu faire beaucoup de développement de technologies, ça s'appelle des technologies quantiques de nos jours, pour fiabiliser tout ça, faire en sorte que ça soit commandable à distance, ça survive au lancement par la fusée, au changement de température, etc. Mais l'horloge Pharao, qui est en orbite sur la Station spatiale internationale aujourd'hui, marche très bien. On est très content de son fonctionnement et on est en train de la comparer avec des horloges au sol, les fontaines au sol, à l'Observatoire de Paris en particulier, mais aussi dans d'autres laboratoires en Europe. On a 4 stations en Europe, on en a 2 aux États-Unis, 1 au Japon. Et grâce à tout ça, on va pouvoir tester justement l'effet Einstein. Et on espère faire un test beaucoup plus précis de la relativité générale, le décalage gravitationnel des horloges, prédit par Einstein et mesuré jusqu'à ce jour. Mais on espère faire un facteur 10 à 20 fois mieux que ce qui est fait aujourd'hui.
Alors cette horloge, ce projet Pharao, projet d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite, on a fait décoller en avril dernier. Cette horloge est à bord de l'ISS et on écoute la question de notre second invité mystère qui a d'ailleurs 2 questions pour vous.
Mon cher Christophe, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles j'admire tellement ton œuvre scientifique, il y a le fait que tu n'as jamais hésité à te lancer dans des programmes dont l'issue heureuse était loin d'être certaine. Avec le recul de quelques décennies, j'aimerais savoir si tu avais imaginé les conséquences de 2 de tes décisions les plus audacieuses. D'abord, quand tu as décidé en 1985 de venir nous rejoindre, Claude Coentanoudji, Jean Dalibard et moi, avais-tu réalisé que le refroidissement d'atomes par laser causerait des dommages irréversibles à ton classement au tennis, qui était excellent à l'époque? Plus sérieusement, quand tu as décidé à la fin des années 1980 de te lancer dans un programme d'atomes froids dans l'espace, programme qui vient d'aboutir il y a quelques mois seulement, pensais-tu que cela prendrait si longtemps ? As-tu eu des moments de découragement ? Allez, bonne continuation, Christophe.
Voilà,
merci Alain pour cette question. Alors la question pour le tennis.
Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, avec qui vous avez fait en effet vos armes sur ces premières horloges. Je vous laisse répondre à ces questions.
Absolument, oui. Alors pour ce qui est du tennis, tu as totalement raison. La quantité de travail nécessaire pour faire de la recherche à la pointe est un peu incompatible, mais je joue toujours avec plaisir, tu vois. Et sur la deuxième partie, je crois que c'est bien d'explorer des directions où on sent, disons, c'est fondé sur des concepts très simples, hein, l'utilisation de la microgravité pour les horloges, pour les interféromètres atomiques. On sait que la pesanteur sur Terre introduit une limite. Hein, et en microgravité, on peut surpasser cette limite. Donc, on peut explorer, finalement, ce domaine. Et cette exploration est en cours. Hein. Il y a des condensats de Bose-Einstein sur la Station Spatiale Internationale, dans le laboratoire américain, et des groupes en Europe et en France aussi explorent la possibilité de faire des interféromètres atomiques avec des très longs temps de mesure, parce que des atomes en chute libre, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Hein. Donc, dans une fontaine, on est obligé de vivre avec la gravité, mais en chute libre... ces atomes sont complètement isolés et donc peuvent être d'excellents senseurs de gravitation ou inertiels. Alors après, les phases de découragement, oui, mais j'ai un caractère optimiste. Hein, les phases de découragement, il y en a eu. Il y a eu plusieurs crises. Hein, il y a eu une crise avec la société Soderne, hein, donc je ne veux peut-être pas rentrer trop dans les détails ici, mais sur le financement, c'est-à-dire que quand on a demandé avec le CNES à la société Soderne de réaliser un instrument spatial, la société avait un peu sous-estimé les efforts technologiques qu'il fallait faire. Mais je dois dire que dans un esprit de collaboration remarquable entre les labos et la société Soderne et le CNES, on a réussi à sortir de cette impasse. Et Alain Aspect, justement, tu étais dans le groupe de revue qui a fait des recommandations à ce sujet. Et il y a eu la même crise avec Airbus entre 2 et 3 ans. Parce qu'à chaque fois que les développements spatiaux deviennent coûteux, il y a toutes sortes de groupes de revue. On vérifie les objectifs expérimentaux. Est-ce qu'ils sont restés, les objectifs scientifiques, est-ce qu'ils sont restés valides ou pas? Et donc, ça prend du temps. Il y a des tas de comités d'experts qui se réunissent. Mais je suis très content que l'instrument soit à bord de la station. Et on va faire notre maximum avec le groupe d'analyse des données à l'Observatoire, avec Peter Wolf, Philippe Laurent, Sébastien Bise et tous les collègues européens, pour en tirer le maximum.
Ça devait être quelque chose, quand même, ce décollage le 21 avril dernier, de voir,
absolument,
sur un temps si long de préparation de projet.
C'est un moment très intense. J'étais pas si stressé que ça, parce que j'avais confiance dans la fusée SpaceX. Par contre, le spectacle est magnifique parce qu'on voit la lumière. La fusée allume ses réacteurs, ça fait une lumière énorme. C'est une espèce de petite bombe en train de décoller, mais on n'entend rien. Et puis on voit la fusée décoller un peu, et là on entend le son parce que la vitesse de propagation des ondes sonores est bien plus petite que la vitesse de propagation des ondes lumineuses. 300 mètres par seconde versus 300 km par seconde. Et donc on entend un bruit énorme, et là on se demande, il y a des vibrations, des craquements, on se demande si nos instruments vont survivre. Et puis on voit la séparation du premier et du deuxième étage, ça fait une jolie lumière bleue. On arrive à suivre le deuxième étage jusqu'à une altitude d'environ 400 km. Et puis après, il y a la deuxième partie du spectacle, c'est que l'étage inférieur de la fusée revient vers le sol. Donc on la voit à nouveau rentrer dans l'atmosphère, faire de la lumière par frottement et ionisation des particules dans haute l'atmosphère. Et puis après, ça disparaît. Et puis, simplement, peut-être 3 secondes ou 4 secondes avant l'atterrissage de la fusée sur le pas de tir ou un pas de tir voisin, eh bien, la fusée réallume ses réacteurs pour freiner, juste pour se poser sur le sol. On n'entend rien, toujours. Les réacteurs s'éteignent, la lumière s'éteint, et là, on entend un double Big Bang absolument magnifique.
Eh bien, en tout cas, merci pour ce voyage dans l'histoire de la physique que vous continuez à écrire. Mille merci, Christophe Salomon, d'avoir été à notre micro tout de suite. On retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, c'est la chronique Avec Science.
Merci à vous.
Merci.
Quelles sont les sources les plus dangereuses de particules fines? Ces particules atmosphériques, ce sont des grains solides en suspension dans l'air. Certains sont d'origine naturelle, comme ceux des volcans, des embruns marins ou du sable, qui sont d'ailleurs les plus importants en quantité. Mais les particules atmosphériques qui posent vraiment problème sont celles issues de nos activités humaines, du chauffage, des transports, des industries et de l'agriculture. Elles sont très nombreuses et de tailles très différentes. Elles mesurent de quelques nanomètres à plusieurs micromètres de diamètre, et c'est d'ailleurs comme cela qu'on les classe aujourd'hui. Gaëlle Usu est directrice de recherche à l'IRD et chercheuse à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble.
En fait, on a commencé à les classer par classe de taille parce que quand elles vont pénétrer dans la voie respiratoire, eh bien plus elles sont fines, plus elles iront profondément dans l'arbre trachéobronchique. Et c'est ça qui va faire différents, on va dire, impacts à différents niveaux dans l'arbre respiratoire. Et la réglementation a commencé à les classifier en fonction aussi de la profondeur à laquelle elles pouvaient se loger dans nos poumons. C'est pour ça qu'en fait, on parle dans la littérature d'ultra fine particules pour les particules qui sont inférieures à 100 nanos. On parle aussi des PM1. Ce sont toutes les particules comprises entre 0 et 1 micron. Les PM2.5, ce sont toutes celles dont le diamètre aérodynamique est compris entre 0 et 2.5. Et les PM10 qui ont été réglementées plus tôt, ce sont toutes celles comprises entre 0 et 10. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, finalement, les ultra fines, elles sont comprises dans les PM1, les PM1 sont comprises dans les PM2.5 et les PM2.5 sont comprises dans les PM10.
Plus une particule va loin dans les poumons, plus c'est un problème, certes, mais sa taille ne suffit pas à déterminer sa dangerosité. C'est pour cela que cette nouvelle étude publiée dans Nature a voulu aller plus loin. Regarder non seulement la taille et la quantité des particules atmosphériques émises, mais aussi leur potentiel oxydant, c'est-à-dire leur capacité à provoquer un stress oxydatif dans les cellules pulmonaires, et c'est un mécanisme clé dans le développement de nombreuses maladies respiratoires. Concrètement, on mesure ce potentiel oxydant avec des tests in vitro sur des systèmes pulmonaires reconstitués, et il permet de dire si une particule est réellement agressive pour les tissus respiratoires. Cette étude repose sur 11 000 échantillons d'air prélevés dans toute l'Europe, en ville, à la campagne, près des industries comme des zones agricoles, et résultat, sans surprise, le potentiel oxydant des particules est 3 fois plus élevé en ville, là où le trafic routier est important par rapport aux zones rurales, mais il apparaît aussi dans d'autres environnements.
Et ce que l'on montre, en fait, c'est que, en fonction du test qu'on utilise, vraiment, ce qui ressort, c'est qu'on a 2 sources qui sont vraiment très oxydantes au niveau européen, à savoir le trafic routier et le chauffage au bois. Et ce chauffage au bois, du coup, c'est vraiment un problème en hiver, alors que le trafic routier, c'est un problème chronique sur toute l'année. Par contre, ce qui fait le plus de masse, ça reste le chauffage au bois, et pas seulement dans des vallées alpines comme chez nous à Grenoble. C'est vrai, au niveau de toute l'Europe, en fait, il faut savoir que le chauffage au bois non performant émet énormément de particules. Il faut savoir que la région parisienne va émettre ces particules qui vont venir au cœur de Paris et qui font un poids conséquent du potentiel oxydant en hiver sur la région parisienne. Une autre source qui est assez oxydante dans le trafic, on pense que c'est vraiment ce qui est lié à l'abrasion des freins et à l'abrasion des pneus.
Toutes les particules, même lorsqu'elles ont la même taille, ne se valent pas. Il y a donc 2 sources particulièrement dangereuses, le chauffage au bois et le trafic routier. Pour ce dernier, on sait que les particules métalliques, notamment le cuivre, issues du frottement, sont très réactives chimiquement. C'est ce qui explique leur fort potentiel oxydant. C'est la plus grande étude jamais menée à l'échelle européenne, 10 ans de données sur 43 sites, et ce n'est qu'un début. Elle va maintenant être étendue au niveau mondial, avec déjà 80 sites inclus. Et en Europe, les futurs super sites de mesure vont bientôt intégrer des instruments capables d'analyser en continu ce potentiel oxydant. Ces données seront croisées avec des études épidémiologiques pour mieux comprendre nos niveaux d'exposition, mais aussi pour orienter les politiques publiques afin qu'elles ne se basent plus uniquement sur la taille des particules, mais sur leur dangerosité réelle.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et c'est l'heure de retrouver le fil culture G. En 3 minutes 30 du lundi au dimanche, les meilleurs experts mettent notre monde en perspective. Comme chaque mercredi, on retrouve Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Les humains sont-ils par nature carnivores ou végétariens? Alors, nous ne sommes pas des purs carnivores, comme les loups ou d'autres espèces qui ont besoin d'une alimentation uniquement basée sur la viande. Ni strictement végétariens, comme les girafes qui mangent uniquement des végétaux. Nous, les humains, Homo sapiens, sommes biologiquement omnivores. Cela signifie que nous pouvons manger et digérer de tout, viande, végétaux, fruits. La part des aliments d'origine animale et végétale dépend du lieu où l'on vit et de choix culturels. À la préhistoire, on mangeait des animaux, mammifères terrestres ou marins, poissons, oiseaux, coquillages. Et nous mangions aussi une variété de végétaux issus de la cueillette, des tubercules, des graminées sauvages, orge et sorgho, et même des racines de nénuphars. Bref, peu de sel et de sucre, mais des protéines, des fibres et du gras. Une consommation importante de viande a même favorisé le développement du cerveau de nos ancêtres. Le cerveau est en effet très gourmand en énergie. Mais surtout, il y a 10 000 ans, arrive une grande nouveauté, l'agriculture. Et donc, la culture de plantes riches en sucre, l'amidon. Selon les régions du monde, on le trouve dans le riz, le blé, le manioc, la patate douce, l'orge, les légumes secs. Cet amidon se digère avec une enzyme, l'amylase. Chez toutes les populations qui cultivent des plantes à amidon, on trouve une forme d'un gène qui produit une amylase très efficace pour la digestion de ce sucre. Nous nous sommes donc adaptés génétiquement à cette nouvelle alimentation. Dans d'autres populations, comme les Inuits du Grand Nord, on trouve une alimentation très riche en gras, les oméga-3. Ces gras se trouvent dans les mammifères marins qu'ils chassent pour se nourrir, baleines et phoques. Quasiment tous les habitants de ces régions sont porteurs d'une mutation qui permet de digérer ces oméga-3. Sans cela, cette alimentation est bien trop riche en gras pour être en bonne santé. Alors qu'en Inde, certaines populations sont fortement végétariennes et elles y sont bien adaptées génétiquement en produisant des acides gras essentiels à partir d'une alimentation végétale. Sur la planète, il y a donc une grande diversité de régimes alimentaires avec plus ou moins d'aliments végétaux ou animaux. Et au fil des millénaires, les populations se sont adaptées génétiquement à leur alimentation traditionnelle. Mais l'alimentation a rapidement changé ces dernières dizaines d'années. Moins de diversité, beaucoup de transformations industrielles, trop de sucre, de gras et pour beaucoup trop de viande. Et cela a un impact très direct sur notre santé. Sans compter que ces choix ont aussi un impact sur la planète. La production de viande, qui augmente aujourd'hui dans le monde, a un coût environnemental très important. Alors, quel que soit votre choix alimentaire d'omnivore, faites-le pour une meilleure santé et en équilibre avec la planète, car tout est lié.
Merci, Guy Meyer. C'était Le Fil Science et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Antoine Bouchon, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.